Vous écoutez Sériland et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec le réalisateur, scénariste et producteur Alain Capoff. Sur son CV, on trouve entre autres Caméra Café, Kaamelott, En Famille, Péplum ou encore Scène de Ménage, diffusée sur M6 tous les soirs et élue série préférée des Français selon un sondage TV Mag Opinionway. Suis-je heureuse de recevoir Alain Capoff ? La réponse est contenue dans la question. Je m'appelle Eva et dans ma culture télévisuelle, je possède une fascination pour les séries construites en format court. Biberonnée aux scénettes d'un gars et une fille, je me suis délectée des joutes verbales entre Jean-Claude et Hervé devant une machine à café. J'ai hurlé de rire avec Arthur, Perceval de Galles et Guenièvre dans le château fort de Kaamelott. J'ai cru reconnaître mes sœurs dans En Famille et mon ex dans Scène de Ménage. Ces séries sont des modèles d'écriture. L'art de la chute, leur credo, la maîtrise du temps, leur obsession. Alain Capoff, scénariste, réalisateur et producteur, connaît tout ça par cœur, il est le maître en la matière. Sa réussite principale, à mon sens, savoir humer la société, porter un regard critique sur notre monde et nos relations sociales, nous faire rire de tout et surtout de nous-mêmes. Mais comment ça se passe en coulisses ? Comment trouver l'inspiration au quotidien ? Concrètement, ça veut dire quoi produire des formats courts ? Comment fait-on pour multiplier les succès à ce point ? Est-ce qu'il y a une recette magique ? Et si oui, Alain Capoff acceptera-t-il de nous donner la liste des ingrédients ? Grand entretien avec un homme très rare dans les médias qui a accepté de tout nous dire, ou presque, et c'est pour Sériland.
Sériland, épisode 39.
Bonjour Alain Capoff.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ma question précédente était quelque peu provocatrice, vous l'imaginez, mais je me permets de vous la reposer. Est-ce que vous avez une recette magique qui expliquerait cette longue liste de succès ?
Alors, recette magique, non, si ce n'est être en phase avec la société et donc le travail, la vie en famille, le couple. Donc, aborder ces thèmes-là avec le talent des auteurs, c'est une façon d'attirer l'attention, d'attirer le public, je pense. Par ailleurs, le format en lui-même permet d'accrocher le public, c'est-à-dire de pouvoir proposer très vite une situation différente au bout d'une minute ou deux minutes. Et ça, ça permet aux gens de rester, en quelque sorte.
De s'identifier et de rester voilà. Sur le programme en question.
Voilà.
À l'origine de notre invitation pour ce nouvel épisode de Sériland, il y a eu ce sondage donc, de TV Mag Opinionway. Scène de Ménage est la série préférée des Français. Série diffusée tous les soirs sur M6 à 20h30, suivie en moyenne par près de 4 millions de téléspectateurs. Est-ce que ça vous amuse de voir ce genre de sondage ? Est-ce que vous en tirez une fierté ? Ou est-ce que, bon, au fond, ça n'est qu'un sondage, comme on dit ?
Alors oui, on faut toujours relativiser ce genre de choses. Après, on voit bien, en dehors des sondages, il y a aussi les audiences, il y a aussi le retour qu'on a dans la vie réelle. On voit bien qu'on a une série qui plaît au public, en général, c'est-à-dire à tous les publics. C'est ça la satisfaction, en fait.
Alors la série, elle existe depuis 11 ans. Sur M6, c'est l'adaptation d'un format espagnol au oui. départ. Il paraît que c'est Nicolas Taverneau qui l'avait repéré. Alors, est-ce que c'est vrai et comment vous vous retrouvez embarqué dans cette aventure ?
Alors oui, c'est Nicolas de Taverneau qui a vu cette série en Espagne, qui est une série qui marchait pas mal, mais qui mettait en exergue le vieux couple, puisque là-bas, ce vieux couple sont des comédiens très très connus qui avaient un gros succès. Donc.
En France aussi, sincèrement, dès le début de l'aventure, on a tous craqué pour Huguette et Raymond, donc alias Marion Gamme et Gérard Hernandez.
Comme c'est étrange.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Ça sent le pot-au-feu.
C'est mon nouveau parfum.
Pauvre con. Pauvre con, pauvre con. J'ai le tarin, quand même.
Alors, des vieux à la télé, est-ce que vous avez convaincu facilement la chaîne de mettre des personnes âgées en avant ?
Non, j'ai pas eu à convaincre, hein, parce que, encore une fois, c'était déjà dans le concept initial. Non, ce qu'on a pu apporter là-dessus, c'est le concept de nos futurs pour des vieux. C'est-à-dire, en gros, ils n'ont plus rien à perdre. Et c'est ce qui fait la corrosivité de ce couple et du propos de ce couple. C'est-à-dire, ils peuvent tous permettre, et on sait très bien qu'ils ont quand même un passé d'amoureux, ils se sont aimés, ils s'aiment toujours, mais ils peuvent se permettre d'envoyer tout balader, et c'est ce qui fait. Et il y a une certaine misanthropie aussi de la part de Raymond, qui fait tout son charme d'une certaine façon. Et donc ça, c'est vraiment ce qui fait la particularité et l'attractivité de ce couple, même pour les enfants, par exemple. Ouais.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que vous travaillez l'humour de façon différente pour chaque couple, donc chaque génération de couple? Vous ne portez pas le même humour en fonction des générations qu'on voit à l'écran?
Alors en fait, on a des âges où le conflit peut naître parce qu'il y a un événement dans la vie du couple. Et donc, par exemple, le jeune couple, c'est l'emménagement. Donc, l'emménagement, ça veut dire habiter ensemble, l'appropriation du territoire, et tout ça génère du conflit. Chez Valérie et Fred...
José et Liliane, oui.
José et Liliane, là, le conflit naît du départ de l'enfant. C'est-à-dire, ils se redécouvrent, parce qu'on avait une mère trop maternelle. Son fils part faire des études en Chine, et d'un seul coup, le couple se retrouve d'une certaine façon et va devoir réapprendre à vivre sans cet élément qui focalisait le couple et surtout la mère. Et donc, ça génère à nouveau du conflit et une redécouverte du couple, en fait. Et donc, à chaque fois, on a un tournant dans la vie, dans chaque couple.
Mais après, sur la forme de l'humour en tant que telle, ça ne change pas. En fait, est-ce qu'il y a des vannes que vous vous interdisez avec le couple des personnes âgées, par exemple, parce que on le sent pas dans leur voix, par exemple.
On s'interdit rien a priori. Hein.
Ça c'est bien déjà.
Alors après, on a des rappels quand même. Évidemment, on doit rester tout public. Donc pas si parler des. Du vieux couple, on a souvent eu le reproche d'avoir beaucoup de gros mots, par exemple.
Oui, c'est un reproche qu'on vous a fait au tout début de la série. Hein. Oui.
Alors, on a dû un peu se calmer là-dessus. Cela dit, dans la vie de tous les jours, et aussi on doit être le reflet de la vie de tous les jours, on ne parle pas qu'avec des mots fleuris. Et voilà. Donc il faut trouver l'équilibre entre ne pas choquer et rester crédible et réaliste, en fait.
Ces programmes courts, ils reposent, en tout cas à mon sens, sur deux qualités principales. À la fois l'écriture, évidemment, qui donne le rythme et qui offre des bonnes répliques aux comédiens, et aussi, justement, à l'interprétation aux comédiennes et aux comédiens. Quels souvenirs vous gardez des castings, Alain Capoff? Est-ce que vous vous en souvenez?
Étant donné qu'on était aussi quand même dans quelque chose d'un peu nouveau pour certains comédiens, Gérard notamment... qui, lui, a une culture beaucoup plus classique, à l'ancienne, en quelque sorte, où il est beaucoup sur le texte, et on s'écarte très peu de l'écriture, par exemple, ça c'est un exemple. Il a été un peu surpris au début, il croyait pas vraiment au projet, d'une certaine façon.
Mais vous étiez convaincu que c'était lui ? Que Raymond, c'était Gérard Hernandez?
Alors nous, on en était quand même.
Pas ça, lui, mais lui, mais vous, oui.
Oui, oui.
Vous,
après, oui. Lui, je pense qu'il ne savait pas vraiment dans quoi il était tombé, en gros. Et après, ça a été le premier, puisqu'il a cette facilité naturelle à justement s'écarter du texte et improviser et trouver lui-même parfois des punchlines. Donc voilà, ça c'est le souvenir du pilote que j'ai avec lui en particulier. Avec Audrey, l'ami, le souvenir que j'ai, c'est qu'elle s'est cassé le genou, je crois, pendant le pilote. Donc on a dû attendre, ça a été un peu chaud tout ça. Enfin, ça a été avec quelques complications dues à ça et au tournage. Donc ça a failli remettre même presque en question... les choses pour elle.
Mais là, vous me parlez des pilotes, donc c'est-à-dire une fois que les comédiens étaient choisis déjà.
Oui.
Est-ce que vous avez longtemps hésité en casting sur quelle comédienne et quel comédien allait interpréter vos personnages, ou vous aviez déjà des idées assez arrêtées sur
non.
qui vous aviez
non,
envie
aucune
d'avoir
idée arrêtée.
Ouais.
Et là, je dois souligner le travail d'un directeur de casting, on ne les cite pas souvent, mais qui s'appelle Michael Lagens, qui est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter pour nous trouver des perles. Et donc, en l'occurrence, après, ça se fait entre lui et moi. Moi, je connaissais Audrey parce qu'on l'avait déjà casté sur autre chose, donc j'étais un peu arrêté sur elle. Mais en dehors de ça, il y a eu beaucoup de propositions donc, de Michael. Le process, ce n'est pas tout à fait le même qu'un casting ordinaire, parce que là, on doit avoir un binôme. C'est-à-dire, on peut être très excellent comédien et ne pas faire partie de scène de ménage, parce qu'il faut qu'il y ait une fusion et une perspective aussi sûre. Il y a plusieurs critères. Évidemment, il y a savoir jouer. Il y a le deuxième critère, c'est savoir jouer avec
l'autre,
son complice, et d'être fusionnel. Et le troisième, c'est de ne pas être caractériel. C'est-à-dire de se dire, il va pouvoir jouer plusieurs années sans mettre en péril l'équipe et l'équilibre entre les comédiens, etc.
Vous êtes obligé d'y penser. En fait, vous le concevez presque comme une troupe de théâtre, où vous dites, on va partir en tournée et il faut absolument que chacun s'entende avec les autres.
C'est ça. Et même au-delà de ça, si je peux rajouter un truc là-dessus, parce que vous mettez le doigt sur un genre du programme court. Parce qu'en fait, entre les différents programmes courts, il y a deux classes de programmes courts. Il y a Scène de ménage, qui est dans la lignée de Caméra Café. C'est plus de la sitcom, c'est du théâtre, en fait. C'est pour ça que je rebondis sur le mot théâtre. C'est parce qu'on a la perspective du théâtre. On est dans la position d'un spectateur de théâtre. Et donc, même dans le jeu, dans la façon de bouger et tout ça, on est dans la sitcom, au bon sens du terme. Hein, puisque chez nous, la sitcom, ça a été beaucoup dévalorisé,
décrié,
malheureusement.
Sûr, bien sûr.
Alors que
aux États-Unis, c'est un genre à part entière, bien sûr.
Il y a Seinfeld, Friends, tout ça. Big Bang Theory, plus récemment. Donc tout ça, c'est de la sitcom. Et donc, on est dans cette veine-là. Ce n'est pas le cas de Kaamelott, par exemple. Le côté théâtre, c'est en effet une bonne définition de ce qu'on propose, avec un cadre fixe, et on rejoue la scène comme au théâtre, etc. C'est ce qui nous permet aussi, évidemment, de simplifier, d'une certaine façon, la production.
Frédéric Bourali, qu'on a eu en ligne, vous l'entendrez tout à l'heure, il parle de vous d'ailleurs, et il parle de son rôle et de l'écriture, nous racontait que dans son casting, au cours de son casting, il avait eu beaucoup d'actrices devant lui, et qu'effectivement, c'est l'alchimie avec Valérie Carcenti qui a fait que le choix s'est porté sur Valérie notamment. Généralement, quand je parle de scène de ménage, je n'aime pas utiliser le terme de sketch, mais je préfère le terme de scénette. Alors, effectivement, ça renvoie un peu au théâtre, à ce qu'on disait, parce que je trouve que régulièrement, on est cueilli par un moment qui est un peu plus tendre, un moment où c'est plus un sourire qu'un éclat de rire franc et massif. On n'est pas vraiment, dans la vanne pour la vanne. J'ai une passion, notamment pour le couple formé par Liliane et José, donc Valérie Carcenti et Frédéric Bourali.
Alors, attention. Joyeux anniversaire, ma Lily.
Oh, merci, mon José. Oh, eh bien oui, il est joli.
Ah oui, il est joli, quoi, c'est tout. Ça te plaît pas, quoi.
Oh, suis-moi, il est magnifique. Si, c'est mon style, c'est mes couleurs.
Ouais.
Bon, de toute façon, depuis que c'est ta secrétaire qui choisit mes cadeaux, hein, c'est toujours parfait, donc...
Eh ouais, elle a beaucoup de goût, Brigitte.
Ben oui, c'est sûr. Mais tu vois, avant, quand c'était toi... Bon, c'était souvent à côté, hein. Mais c'était surprenant, tu vois, il se passait toujours quelque chose.
Je savais que ça te manquerait. Tiens, ma Lily.
Oh, tu me connais tellement bien. Oh, ouh là là. Ben là, on y est, tu vois. Est-ce que c'est de la déco, hein? Est-ce que ça a une utilité? Hop! On ne sait pas.
Alors, en fait, c'est un...
Non, me dis pas. Non, je préfère deviner, tu vois. Ah, bon, ben voilà.
Alain Capoff, en réécoutant cet extrait, je viens de m'apercevoir d'un truc incroyable, c'est que Valérie Carcenti scatte. C'est-à-dire qu'elle a des intonations dans sa voix absolument incroyables et inimitables. Est-ce que vous l'aviez repéré rapidement, cette histoire-là?
Alors, bien sûr, et je dirais même, là, en réécoutant avec vous, j'ai fait le rapprochement tout de suite avec les Simpsons.
C'est vrai.
C'est marrant, ça. Les Simpsons, y compris sur le fond même, je dirais, de la famille moyenne, avec ses problèmes moyens. Bref. Alors oui, de toute façon, Valérie, on ne va pas répéter que c'est une comédienne hors pair qui sait tout faire. Hein. Et en fait, c'est beaucoup plus dur d'ailleurs de trouver un personnage dans la comédie, comme elle le fait. Tout le monde peut nous faire pleurer, je pense, assez vite.
Faire rire, c'est plus
mais
compliqué.
Tout le monde n'est pas capable d'avoir un personnage aussi fort en comédie et de nous faire rire avec. Donc ça, c'est une véritable... Ça donne la dimension de la comédienne, en fait.
Si j'ai bien compris, il y a une chose qui était importante et qui paraît pas, qui paraît plus anodine comme ça quand on y pense, mais la profession des personnages est extrêmement importante, si j'ai bien compris.
Les métiers ont une importance puisqu'ils définissent le cadre social et le cadre de vie des personnages et également participent en partie au conflit possible dans le couple.
Voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec Fabien qui est professeur d'histoire et Emma qui travaille dans un magasin de bricolage.
Alors là si on cherche l'écart, on a quelque chose de symbolique qui est une profession très matérielle, celle d'Emma, qui est donc très concrète, comme le personnage. Ça définit en fait aussi sa façon d'être. Elle est dans le concret, dans le matériel, hein, puisqu'elle travaille dans une boutique de bricolage.
Ouais.
Et lui, il est plus dans donc l'intellect. Hein. Donc ça donne cette dimension conflictuelle aussi parfois. Ils n'ont pas les mêmes interrogations, pas les mêmes perspectives toujours. Donc c'est ça qui fait l'intérêt des définitions de métier.
Alors en vous écoutant, on prend conscience aussi de l'importance de chaque détail à travers une scénette. C'est aussi tout ça qui se joue à la fois notre société, le regard qu'on pose sur cette société. Vous me confirmez, Alain Capoff, qu'il y a une trentaine d'auteurs qui travaillent avec vous pour Scènes de ménage?
Oui, oui, on a même constitué des ligues, on a tout un système, hein, comme au football. Oui, bah, il y a les vieux de la vieille, entre guillemets, je ne vais pas leur faire plaisir en disant ça, mais c'est ceux qui sont là depuis le début, voire qui étaient mes comparses dans d'autres séries avant. Donc eux constituent l'essentiel aujourd'hui de la Ligue 1, qui sont les gros fournisseurs, entre guillemets. Ils sont là depuis le début, ils connaissent tous les rouages des personnages et de la façon de fournir, entre guillemets, les scénarios, les scénarii. Il y a une Ligue 2 qui sont un peu les nouveaux entrants. Bon, maintenant, ils sont bien établis aussi, hein, mais il y a un process de progression dans les auteurs pour faire arriver de nouveaux auteurs. Il y avait même un centre de formation avec des vieux auteurs, et qui arrivaient, donc le but c'est de passer en Ligue 2. Donc voilà, et après de suivre le chemin pour arriver dans les cadors.
Juste une dernière question avant qu'on cède la parole à Frédéric Bourali. Est-ce que l'écriture est et sera toujours pour vous, on parlait d'ingrédients tout à l'heure, l'ingrédient principal sur lequel vous concentrez tous vos efforts?
Oui. Alors, je dis oui parce que, en fait, la comédie étant un genre tout à fait particulier, à savoir que dans la comédie, contrairement aux autres genres, le comédien est à 50% minimum du résultat final. C'est-à-dire, le même texte, le bottin récité par un comédien classique ou un comédien de comédie, on verra que le comédien de comédie, dans la comédie, en tous les cas, on ne va pas catégoriser comme ça, dans la comédie, l'apport du comédien, il est plus substantiel que dans les autres genres. Donc, on est obligé. C'est pour ça que ils participent eux-mêmes à l'écriture, voire à la gestuelle, parce que c'est eux qui vont restituer un texte. Alors, tous les textes ne sont pas forcément avec des vannes. Il faut bien, à un moment, traduire en comédie des choses qui peuvent être banales, mais qu'eux vont restituer d'une façon très différente, puisque c'est de la comédie, justement.
Donc 50-50, le texte et les comédiens, si je comprends bien. Magali Buteau, notre sérivore, elle a demandé justement à Frédéric Bourali s'il avait un droit de regard sur l'écriture, on vient d'en parler, et sa réponse, elle est extrêmement intéressante.
Alain et Christian, c'est les producteurs qui ont cette idée de génie, mais depuis le départ, hein, depuis le premier jour, hein, on nous a demandé d'être acteurs dans tous les sens du terme sur cette série, c'est-à-dire qu'on est acteurs, évidemment, on invente nos personnages, tout ça, mais surtout, on fait ce qu'on appelle des lectures, c'est-à-dire qu'il y a 20-25 auteurs absolument extraordinaires qui écrivent pour tous les couples. Hein, qui écrivent. Alors, c'est pour nous, par exemple, ben, là, bientôt, je crois, la semaine prochaine, on va faire une séance de lecture. Alors, en ce moment, on les fait par visio, bien sûr, mais d'habitude, on se retrouvait autour d'une table. Mmh. Il y a Valérie et moi, il y a un des réalisateurs, il y a une script, etc., et le directeur d'écriture, qui fait le relais avec tous les auteurs. Et on lit une centaine de textes, et on les choisit avec Valérie. C'est-à-dire qu'on dit, alors on les choisit pas parce qu'on est des divins, hein, c'est pas du tout ça, on est vraiment des chieurs. Alors on les prend, on les prend pas. Alors il y a 1000 critères, il y a le critère de bon, faut que ce soit drôle. On connaît tellement nos personnages qu'on on dirait tiens, nos personnages ils seraient pas comme ça par rapport à ce qu'ils sont dans leur vie, ils feraient pas une chose pareille ou le feraient. Ou des fois, alors évidemment c'est très facile quand les textes sont très très bons tout de suite, on les prend. Alors, c'est toujours très très bien écrit, mais des fois c'est difficile parce que c'est difficile. Moi j'en ai écrit pas mal aussi pour Scène de ménage au début, maintenant j'ai plus le temps.
D'accord.
Mais c'est très difficile d'écrire pour Scène de ménage parce que il y a pas de vanne, il y a pas de gag, il y a pas de jeu de mots, c'est pas une phrase, une vanne, c'est pas ça du tout, c'est des situations.
On comprend bien dans le processus d'écriture qu'il y a beaucoup de choses qui partent à la poubelle, mais ça c'est normal. Est-ce que vous avez beaucoup de sketchs tournés qui partent à la poubelle ou une fois que vous avez validé le texte, vous savez que ça va le faire et vous pouvez compter sur le tournage?
Il y a beaucoup de entre guillemets de déchets. Alors c'est une chose évidemment qu'on n'aime pas faire, mais on est quand même dans un processus un peu industriel malgré tout, donc on essaie de sauver la plupart des textes évidemment, toujours, encore une fois le dispositif permet ça puisque tous les auteurs peuvent essayer d'arranger les textes des autres, et puis ça sert à ça en fait, et y compris quand le réalisateur et les acteurs sont là. Il y a toujours une possibilité d'améliorer le texte parce que le réalisateur verra quelque chose que n'ont pas vu les auteurs. Le comédien il dira non, le personnage, il ferait plutôt ça. Donc, c'est très collaboratif et ça le restera parce que, évidemment, c'est gagnant. Donc, en fin de compte, même si le texte a beaucoup de défauts, par exemple, à un moment, mais qu'il a malgré tout été retenu par le directeur d'écriture, il y aura toujours moyen d'arriver avec un texte au maximum de son efficacité.
Frédéric Bourali dit à plusieurs reprises qu'il est un peu chiant, qu'il pinaille beaucoup. Mais je me suis dit qu'en fait, au fond, le succès aussi de Scène de ménage reposait sur cette volonté de perfection, cette rigueur en tout cas dans l'écriture, dans les moindres détails du décor, des costumes. C'est vous qui avez imposé aussi cette identité visuelle qui est si importante dans la série ?
Moi, je me suis inspiré d'un... Il y a des Belges qui s'appellent Abel et Gordon. C'est deux cinéastes. C'est une femme et un homme. C'est absolument... Il faut aller voir ce qu'ils font. C'est complètement marginal. C'est un peu dans l'esprit de Tati. Chaque plan est composé. Ils sont aussi danseurs. Enfin, c'est assez bizarre, leur cinéma, mais j'ai adoré. Et donc, chaque plan est composé comme un tableau, en quelque sorte. Donc, j'ai un peu retenu cette leçon, entre guillemets. Et donc, la façon de, à la fois, caractériser et donner une couleur, au sens strict, à chaque couple. Et même au-delà de ça, c'est-à-dire que si on fait vraiment attention, et par exemple, les réalisateurs sont très pointilleux même là-dessus, Francis Duquet et Karim Adda, sur le fait de la composition des vêtements, de la fleur rouge
côté, ouais,
qui va... voilà. Il n'y a rien au hasard, finalement, dans chaque plan. Pourquoi ? Parce que chaque plan est fixe, donc composé comme un tableau quelque part. Donc rien n'est gratuit dans la, la façon de traiter les couleurs et le décor et tout ça. Donc,
il faut qu'il y ait une sorte d'harmonie comme quand vous regardez un tableau.
Oui, c'est exactement ça. Et donc, ça. En effet, à chaque fois qu'on crée un décor, vous verrez qu'il y a une couleur particulière et qui est liée aussi donc, à la caractérisation du couple.
Alors, il y a une autre particularité de scène de ménage. L'actualité en tant que telle n'a pas sa place dans les dialogues, contrairement aux autres séries quotidiennes, je pense à Plus belle la vie notamment. Vous parlez, vous, du quotidien, de notre quotidien, au sens presque sociologique du terme. Mais, Alain Capoff, j'ai quand même trouvé une référence à la Covid. C'est avec Léo et Leslie, le plus jeune couple.
Ah bah oui, d'accord.
Mais qu'est-ce que t'as foutu? Tu m'as dit j'arrive dans 10 minutes.
Je suis désolé ma chérie, j'ai une petite galère dans le métro.
Quoi, c'était bondé?
Bah non, justement, on était plus que deux dans la rame.
Et bah alors?
Oui, mais aucun de nous deux voulait tripoter la poignée pour sortir. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait descendre au même arrêt.
Ouais.
Et donc, tu sais, j'ai attendu pour qu'il ouvre. Et il a pas fait. Donc j'ai regardé, il m'a regardé, et tac, j'ai su, tu sais. J'ai regardé comme ça, j'ai pris entre quatre jeux. Et là, j'ai su que ça allait durer, tu sais, parce que le baston de regard, les stations qui défilent et tout, on ne voulait pas lâcher. Hein.
Ah oui, vous prenez les gestes barrières très très au sérieux, quoi.
Oui, non, mais d'accord, il a fini par lâcher. Il a fini par craquer, parce que à deux stations du terminus. Petit charlot, quoi, un plouc. Hein. Il savait pas quel lascar il avait à faire. Moi, je suis un dingue. Hein. Moi, j'étais parti pour faire les allers-retours sur la ligne, j'en ai rien à foutre. Hein.
Ok, bah bravo.
On vient d'entendre un des derniers couples à avoir rejoint scène de ménage. Il y a un autre duo, lui, qui a disparu.
Marion, voulez-vous prendre Cédric comme époux et vous engager à ses côtés, dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie?
Oui.
Cédric, voulez-vous prendre Marion comme épouse et vous engager à ses côtés, dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie?
Oui.
Pardon, excusez-moi, on peut le refaire, s'il vous plaît? J'ai l'impression qu'il était bof, mon oui, non.
Sincèrement?
Ouais.
Ouais, c'était pas top. Non, mais c'est vrai, c'était pas un oui cool, quoi.
C'est bon, là, on est mariés ou...
Techniquement, non, il me reste encore une phrase à prononcer, mais enfin...
Ah bah super, on l'en fait.
Ouais.
On vient d'entendre, évidemment, Audrey Lamy et Lou Denis-Hélion, Marion et Cédric. Est-ce qu'on fait le deuil de ces personnages, Alain Capoff?
Bon, c'est difficile, toujours.
Ouais.
Et même pour eux, d'ailleurs, ils avaient, encore une fois, leur couleur à eux, leur spécificité. Je pense qu'on avait réussi à construire un truc très original sur ce créneau du couple jeune, vu leur performance, en quelque sorte. C'est vrai que Audrey et Lou, c'était un couple hors norme.
Est-ce que vous pensez parfois à une date de péremption de scène de ménage? Est-ce que vous savez déjà, par exemple, quand vous mettrez un point final à la série?
Non, on est évidemment agréablement surpris de voir que la pérennité de tout ça... La date de péremption... Personne n'a envie, déjà, en tous les cas, de notre côté. On cherche à s'amuser, en fait, toujours, et à garder, entre guillemets, le plus possible de fraîcheur. Donc, il y a des périodes de fatigue, en fin de saison, on n'est pas tout à fait comme en début des sessions, forcément. Il y a évidemment des hauts, des bas, mais le principal étant de préserver l'envie de se marrer, en fait. Le jour où on ne s'amusera pas, ou plus, c'est là où on s'inquiétera, quoi. Donc, pour l'instant, voilà, on a réussi à garder cette envie chez tout le monde.
Donc, vous êtes en train de nous dire que votre métier est un métier formidable parce que c'est celui de jouer en permanence et de se marrer.
Bah, on va pas se plaindre hein, non plus. Hein.
Non mais on parle beaucoup de scènes de ménage depuis le début de cet entretien. Avec Christophe Pirot, le réalisateur de Série Land, on vous a quand même préparé un petit mix d'une infime partie de vos autres productions.
C'est pas faux. Salut Hervé.
Salut Jean-Claude.
Ça va?
Ouais. Oh la vache, ça fait péter la mallette.
Ah bah attends, c'est normal, et vu les documents confidentiels qu'on me fait transporter, bah j'étais obligé de passer à la mallette à code.
Et t'as oublié le code?
Bah ouais.
Oh happy day, oh happy day,
oh happy day,
when Jesus washed,
when Jesus washed,
when Jesus washed, how when he washed,
when Jesus washed, he washed my sins away.
Allez Maximus.
Hey, j'ai rien sur ma toge.
Pardon?
J'ai tout viré, je suis complètement à poil là-dessous.
T'as déjà essayé?
Quoi donc?
De rien mettre. Écoute, c'est incroyable. J'ai l'impression que le monde a changé.
C'est-à-dire?
Bah, avant, je me sentais serré, engoncé, tu vois. Et maintenant, je vois tout avec un œil neuf.
Qu'est-ce que vous faites tout ici, là, en fait? Du roller derby.
Tu comprends quelque chose, toi?
Absolument que dalle.
Alain Capoff, on vient d'entendre des extraits de Caméra Café, de Kaamelott, de Derby Girl, d'En Famille et de Péplum. Des séries donc qui sont produites par vous, des formats courts à l'exception de Derby Girl. Et a priori, il n'y a pas vraiment de point commun entre les différents scénarios. Sauf qu'on a repéré quand même quelques similitudes plus anecdotiques entre Scènes de ménage et En Famille. Par exemple, alors ça se niche dans des détails hein, comme cette marque de céréales fictives Choco Bueno, qu'adore José, mais aussi Antoine, un des personnages d'En Famille. Mais d'ailleurs, est-ce que Alain Capoff, on pourrait imaginer un crossover, alors un mélange des deux fictions en français, entre Scènes de ménage et En Famille?
Moi, j'étais assez défavorable à ça, pour plein de raisons, mais là, parce que justement, on est dans deux univers différents. Donc, Scènes de ménage, sitcom, théâtre, tout dans le jeu, dans beaucoup de choses, on est dans un genre qui est la sitcom. En famille, c'est des caméras, ça bouge, on est dans une série. C'est vraiment deux façons de traiter la comédie qui sont complètement différentes. C'est pas pareil si on fait un close-up ou un gros plan que si on est dans un cadre fixe. Voilà. Donc déjà, dans la façon de traiter les choses, on est vraiment dans deux univers différents. On est dans deux univers différents également dans l'écriture. C'est plus féminin d'ailleurs, à la fois dans l'écriture et puis évidemment dans la présence, puisqu'il y a plus de filles. Et donc, je ne vois pas l'intérêt de faire un crossover. Quoi. On ne ferait pas de crossover entre Engrenage et Platane. Hein,
oui, on est d'accord. C'est vrai.
Bon, là, j'ai un peu forcé le trait, mais
on
bon.
Est d'accord. Ouais. On est d'accord. Non, mais c'est vrai que c'est pas la même narration et c'est pas les mêmes histoires non plus. Alors, on a bien compris, pas de crossover entre Scènes de ménage et En Famille, mais maintenant que je vous ai sous la main, Alain Capoff, j'ai quelques questions, à mon avis, qui vont appeler des réponses courtes, mais enfin, on n'est pas à l'abri d'un scoop. Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux personnages dans Scènes de ménage? Ça, on imagine que oui, parce que vous nous racontiez, en termes de saisonnalité, il faut introduire de nouveaux personnages, mais est-ce qu'on pourrait avoir un nouveau couple prochainement?
Oui.
Alors,
là, c'est court.
D'accord, ça c'est pas gentil ce que vous venez de faire. J'ai dit prochainement, donc je me suis auto-piégée. Est-ce qu'on pourrait avoir un nouveau couple dans la prochaine saison?
Oui.
D'accord. Vous voulez pas en dire
2021.
Plus 2021.
2021, ouais.
D'accord.
Donc oui.
Mais parce qu'il y en a un qui disparaît ou parce que
non,
vous
non,
voulez
non,
en rajouter un?
On espère qu'aucun ne va disparaître. Hein. Non, il n'y a pas de volonté de faire disparaître des couples. D'en faire apparaître de nouveau, oui.
D'accord. Mais alors, comment vous justifiez la volonté de faire apparaître un nouveau couple? Parce qu'il y a des nouvelles problématiques qui vous ont donné envie de faire apparaître un nouveau duo? Ou c'est peut-être une volonté de la chaîne qui vous dit qu'il faut renouveler?
Alors, c'est l'extension naturelle de ce qui a été posé au départ, c'est-à-dire avec un ADN assez restreint sur trois générations. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, les générations sont un peu étendues, et en même temps que les générations, la photographie de la société française. Donc c'est ça en fait, on veut compléter la représentation des sociotypes, quelque part, d'une certaine façon.
Alors, est-ce que ça veut dire, je sais qu'on vous a posé la question à chaque fois qu'il y a eu l'apparition d'un nouveau couple, est-ce que ça veut dire que vous voulez avoir un couple d'homosexuels à l'écran,
Ou est-ce qu'il faut plus de représentativité à la fois de personnes de la issues de la diversité ou du handicap ou toutes ces questions qu'on se pose beaucoup aujourd'hui dès qu'on parle de séries, et à juste titre, à mon sens.
Oui, et en même temps, on ne veut pas être prisonnier de ça non plus. Mmh. C'est-à-dire, nous, le propos de départ, et on ne veut pas déroger à ça. Après,
c'est la scène de ménage.
C'est conflit dans le couple et tournant dans la vie, quelque part. Donc ça, c'est vraiment le nucléus, c'est vraiment le ressort de la série.
Alors, on a compris, un nouveau couple. Vous ne me direz pas, j'ai bien compris que vous n'allez pas m'en dire plus. Bon, tant pis pour moi, je vais repartir à la maison sans savoir.
Je ne peux pas,
Non, j'ai bien compris. Est-ce qu'on peut aussi s'attendre à des changements dans la vie des personnages qu'on connaît déjà? J'ai cru comprendre que, par exemple, il y avait un désir d'adoption d'un enfant dans le couple qui est représenté par Camille et Philippe. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques-uns des événements qui vont leur arriver?
Par exemple, sur le dernier couple, je ne vais pas parler de Philippe
et Camille, Léo et Leslie, l'occurrence.
Il y a des choses nouvelles. Enfin, c'est sur tous les couples, en fait. À chaque saison, on a des événements particuliers qui vont faire évoluer les situations. Donc, sur les jeunes, par exemple, c'est peut-être anecdotique, mais ils vont avoir un chien, c'est prévu.
Un vrai chien ou vous allez
un vrai chien, alors on y tient beaucoup. donc voilà, ce sont des petites choses en fait, ce ne sont pas des grandes pistes, mais ça nous permet d'ajouter en fait à tout leur... des pièces à leur ADN en quelque part. Donc c'est vraiment...
Alors, permettez-moi quand même, avec un chien, vous rajoutez aussi...
des contraintes.
Voilà, j'allais dire un autre mot beaucoup plus vulgaire. Il y a une autre série qu'on adore, donc Caméra Café, on en a parlé. Dans une interview récente, les propos de Bruno Solo ont été un peu amplifiés. Je crois que même lui ne s'attendait pas à ça. Il a évoqué peut-être le retour de Caméra Café. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que cette série peut revivre d'une façon ou d'une autre?
Alors, donc là, en l'occurrence, on parle d'une chose particulière qui est de fêter les 20 ans, c'est-à-dire 20 ans après Caméra Café. Donc ça nous amuse de le faire pour cette raison particulière. Après, revenir, non. Ni les uns ni les autres, je pense, n'ont cette envie aujourd'hui, je pense pas. Mais
marquer le coup,
voilà, c'est...
Alors plutôt avec une soirée spéciale, c'est ça,
j'imagine? Ça sera probablement... C'est un peu le contexte est tout défini. Hein. C'est donc une soirée où on va fêter les 20 ans, ce qui nous permet de revisiter un peu ce que sont devenus tous ces personnages aussi.
Ça vous arrive de retomber sur des sketchs de Caméra Café?
Avec tellement de plaisir.
Et alors, vous vous dites que le monde du travail a beaucoup changé ou malheureusement pas tant que
Oula.
Ça
Alors, il y a tellement de choses et ça, on va s'en amuser.
Oui.
Hein, il y a tellement de choses parce que quand on a un beauf magnifique,
incarné
et tellement
par Yvan Bolloc,
le maître étalon du beauf comme Jean-Claude... qui se retrouve coincé par MeToo ou par aujourd'hui, tout ce qui est arrivé depuis, les réseaux sociaux, etc. C'est un régal.
Est-ce que vous savez déjà à quoi ressemblera votre prochain programme court?
Rien n'est garanti aujourd'hui.
D'accord. Hein.
C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un projet qui est en développement, mais dont je ne peux malheureusement évidemment pas parler. Et donc oui, ça sera dans une certaine continuité des programmes courts qu'il y avait sur M6 jusqu'à aujourd'hui, quoi.
Alors, on parlait des points communs éventuellement entre toutes ces productions. Alors, c'est vrai qu'a priori, il n'y en a pas, mais on en a trouvé aussi un autre. C'est cette faculté à faire intervenir ce qu'on appelle des guests, donc des invités qui viennent s'interférer au milieu des comédiens qu'on a l'habitude de voir tous les soirs, comme ce garçon dans Scène de ménage.
Arrêtez de faire la tronche, c'est des cadeaux de la mairie, vous devriez être content, qu'est-ce qu'il y a?
Ah oui, on est content, tu parles à pilulier de merde.
Mais c'est bien un pilulier. C'est ergonomique, c'est joyeux, un pilulier. Et toi, Maggie, une canette?
Non, une canette, non, ça, pas une canette.
Mais c'est bien une canette. C'est à la goyave. T'as déjà bu des canettes à la goyave? C'est rafraîchissant, c'est revigorant.
Revigorant? Ah, bravo la mairie, ils ont fait fort hein, cette année. Et en plus, on est servi par un repris de justice.
Oh, oh,
T'habites avec elle tous les jours.
Tous les jours, t'habites avec elle.
Écoute-moi bien, Micheline Prel. Moi, je suis gentil, je suis respectueux, je suis envoyé par la mairie pour vous faire des cadeaux. Et c'est des cadeaux gratuits. Et toi, t'es récalcitrante, toi.
Moi, je suis récalcitrante.
Il faut le dire.
Oui.
Tu es récalcitrante.
Merci. Merci, Michel. Ça fait du bien. Elle est récalcitrante.
C'était Jamel Debbouze qui était habillé en Père Noël et qui venait amener des cadeaux à Marion Gamme et Gérard Hernandez, en l'occurrence, Huguette et Raymond. J'ai imaginé que cette scène avait été faite en grande partie en impro, notamment avec le terme de récalcitrante, parce que je l'entends très bien dans la voix de Jamel Debbouze.
C'est le naturel de Jamel. Hein. C'est, quand on parlait de texte et de liberté par rapport au texte, bon, lui, c'est un expert, puis c'est vraiment, il excelle là-dedans. Et en effet, il est également fan de Gérard. Il adore Gérard, quoi. Donc, il tenait absolument à tourner avec ce couple. Donc, non, on s'est bien marré.
Mais plus sérieusement, cette utilisation, alors le terme n'est pas très joli, mais voilà, l'arrivée de guests dans des épisodes comme ça, ça relève quoi ? Ça relève du gadget, du piment, du côté un peu marketing, de la chaîne qu'il exige. Comment vous l'interprétez, comment vous l'incluez dans votre travail ?
Bon, c'est un peu spécifique au prime, en fait. En réalité, ça a plus
une versions longues, en fait,
entre guillemets,
des programmes. Ouais.
Non, parce que quand on propose une soirée spéciale, il faut également avoir quelques éclats, entre guillemets, supplémentaires sur le gâteau. Donc, les guests sont là aussi pour que la soirée soit un peu différente de la proposition quotidienne.
Et il y a beaucoup de gens qui vous ont sollicité pour apparaître comme guest dans les différentes séries que vous avez produites.
Alors,
je cherche absolument à avoir une scène de ménage.
Après, dans les très, très célèbres... Bon, il y a Guillaume Canet qui était venu...
Dans Scène de ménage.
Oui, dans Scène de ménage, on s'est bien marrés. Oui, il y en a beaucoup hein, qui sont venus.
Donc, c'est eux qui vous appellent ? Qui vous disent « Alain, j'aimerais bien faire une apparition ?»
Pas nécessairement. Ça dépend de quoi on parle. Mais sur les primes, bon, on a souvent nos propres idées. Et après, on sollicite les gens. Et ça arrive parfois, en effet, que pour une raison ou une autre, il y ait un besoin particulier d'apparaître dans Scène de ménage, qui est un programme très populaire.
Ah ouais, attendez, j'essaye de décrypter ce que vous êtes en train de me dire. Des gens qui auraient besoin d'un petit coup d'éclairage se disent c'est pas mal d'aller dans une série qui fait 4 millions de téléspectateurs. Mais dans ces cas-là, vous dites oui ?
On dit peut-être. On dit peut-être, non, mais après, c'est pas
oui,
de la...
Oui, ça peut arriver.
On n'est pas du tout, comment dire, on se la pète pas, hein, mais ça dépend aussi de... Et après, il y a... l'envie de nos comédiens à nous, la chaîne, enfin, on n'est pas les seuls déjà à décider si oui ou non on peut amener un tel ou un tel. Hein, donc,
On parle de séries depuis le début de notre conversation, Alain Capoff, mais vous, quelles sont les séries qui vous ont et qui vous inspirent encore aujourd'hui ? Il paraît que vous regardez un tas de trucs.
Si on parle de comédie, ça va remonter un peu loin, mais... C'est les Seinfeld, plus récemment Louis C.K., ce genre de truc. Ou Curb Your Enthusiasm, le créateur de Larry David, par exemple. J'aime beaucoup l'humour juif new-yorkais, par exemple. Donc Seinfeld et Curb Your Enthusiasm sont vraiment un peu dans la lignée Woody Allen, mais en plus trash, quoi. Ça, j'aime beaucoup. Je suis nourri à toutes les sortes de comédies. Allez, aux comédies que j'appellerais ventrales. C'est-à-dire où on n'a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin d'intellect. Comme, je ne sais plus, c'est Einstein qui disait pour écouter de la musique militaire, un cerveau n'est pas nécessaire, une moelle épinière suffit. Donc pour l'humour, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on regarde Benny Hill, n'a pas besoin de réfléchir. Hein. C'est quand il tape sur la tête d'un vieux, moi ça me fait rire.
Moi avec.
Donc, mais d'une manière un peu ventrale, basique, comme un enfant. Et puis des choses plus... élaboré, plus au troisième degré, etc. Les Monty Python, les Seinfeld et compagnie, qui demandent un peu de raisonnement, un minimum de raisonnement. C'est pareil pour Kaamelott, il y a des degrés dans l'humour qui sont très très différents. Et qui, à un moment, on a envie de rire comme ça, à un autre moment, ça ne nous fera pas rire. Voilà, c'est aussi des moments, c'est... un contexte, c'est beaucoup de choses, mais l'inspiration vient de tout et n'importe quoi qui fait rire, en fait.
Mais vous me parlez de comédie, de séries de comédie. Vous ne regardez pas d'autres séries de type drama ou si. Policier ou,
alors, ah bah, la dernière que j'ai vue qui m'a vraiment plu, c'est Le jeu de la dame.
Ça, sur Netflix, vraiment... qui a été un des gros succès.
Et je me suis dit, oui. En fait, pourquoi j'aime ça ? Parce qu'en fait, la trame, honnêtement, elle est très, très basique.
On est d'accord.
Elle est vraiment, elle tient sur pas grand-chose.
Donc je veux que le producteur que vous êtes, vous m'expliquiez qu'est-ce qui fait qu'on a aimé autant cette série.
C'est la comédienne. Elle est fantastique.
Vous, à titre personnel, vous n'avez pas envie de développer votre série ?
Si, et pas nécessairement dans la comédie d'ailleurs. Donc je travaille sur des sujets qui m'intéressent beaucoup, dont je ne parlerai pas.
D'accord, j'ai compris, Alain Capoff. Vous voulez vraiment m'embêter.
Mais oui, ça, évidemment, ça me plaît. Après, pour revenir aux séries, moi, c'est plutôt un peu dans l'école Judas Pateau, c'est-à-dire j'aime bien les personnages. Et d'ailleurs, pour rebondir sur Judas Pateau, il y a une série qui est une comédie romantique a priori de base, qui s'appelle Love, qui est construite sur ces deux personnages. Et
formidable.
Je trouve, voilà.
Sur Netflix aussi.
Et, bon, ouais. Après, ça n'est qu'une comédie romantique. Ouais. Enfin, je veux dire, sans condescendance
ouais, bien sûr,
vis-à-vis
bien
des comédies romantiques, mais particulièrement remarquable à cause des deux personnages qui sont dingues.
On vous la recommande grandement aussi. Ouais. C'est sur Netflix à voir. Pour finir, Alain Capoff, je voulais vous faire écouter ça. Est-ce que vous aimez cette musique ?
Fan, alors, le groupe m'échappe là tout de suite.
C'est Tower of Power.
Tower of Power,
voilà,
évidemment.
Voilà, un des plus gros succès, What is Hip. J'ai cru comprendre que vous étiez fan de musique, de funk notamment. Alors, ouais. Ce groupe funk est né en Californie, c'était à la fin des années 60. Vous êtes fan de funk, comme je le disais, de jazz aussi. Le groupe en question, Tower of Power, il est connu pour sa section de cuivre, oui. Notamment. Mais il a aussi un batteur qui est remarquable, qui s'appelle David Garibaldi. Et si je parle du batteur, c'est parce qu'il me semble que vous connaissez très très bien cet instrument de musique. Est-ce que c'est
alors,
vrai ?
Oui, j'ai fait... d'ailleurs, on a, comme Alex Astier, on a fait la même école, pas la même période, qui s'appelle l'American School of Modern Music. Donc, on a fait de la musique. Et d'ailleurs, on a eu une ou deux fois des discussions sur l'intérêt d'avoir fait de la musique en termes de, après, de dialogue et de comédie.
Et c'était exactement ma question.
Et même de montage.
Ouais.
Et donc, en fait, oui, c'est utile d'avoir fait des études de musique, curieusement, mais ça donne une impulsion. On a quelque part des automatismes après dans la rythmique de la comédie, du montage, du dialogue, c'est vrai. Quoi.
Mais on comprend pourquoi aussi la musique est si importante dans vos séries, parce qu'il y a quand même une patte musicale.
Oui, alors ça, il y a une double raison, et ça fait partie aussi de la cuisine des séries, c'est que quand on est dans le genre sitcom, on a le choix. Hein. Soit on fait comme aux États-Unis, on fait applaudir les gens, c'est saoulant. Quoi.
Ouais.
C'est...
Puis en France, on n'a pas du tout cette culture-là.
Et
pour
on
n'a
pas cette culture. Ouais. Donc, il y a une manière, je trouve, un peu plus élégante, c'est de sortir des situations par de la musique. Hein. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il y a, en effet, des transitions musicales dans les programmes courants, et non pas des...
Gardez ça, gardez la musique surtout. Merci infiniment Alain Capoff, merci.
C'est moi.
Je sais que
merci
vous êtes un
beaucoup.
Homme très rare dans les médias, donc je mesure la chance que nous avons eue en vous recevant pour ce nouvel épisode de Sériland. Petit rappel, mais faut-il le faire, Scènes de ménage et En famille sont à découvrir sur M6 et sur le site sisplay.fr, vous pouvez tout revoir. Et si vous voulez avoir un aperçu des productions d'Alain Capoff, je vous encourage à aller faire un tour sur le site de sa société de production cabofamily.com, ça s'écrit K-A-B-O-F-A-M-I-L-Y.com. Vous allez être étonné de toutes les productions signées Alain Capoff. La semaine prochaine, deux nouveaux épisodes de Sériland vous attendent. Dans le premier, nous évoquerons la représentation de la mafia dans les séries à l'occasion de la diffusion sur Canal+ de Your Honor. Et dans le second, le producteur et réalisateur Eric Toledano nous dévoilera les coulisses de la série événement en thérapie à voir absolument sur Arte. Seriland est un podcast d'Europe 1 Studio concocté en famille avec notre producteur Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par la tribu, composé de Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter. Le groupe Facebook Seriland est là pour ça. Vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous rend heureux. Donc n'hésitez pas. Mais attention, dans Seriland, il y a une règle et une seule, ça ne change pas même en 2021. Pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.